Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer, et bien croyez-moi, vous êtes loin d'avoir tout entendu. Coulisses, références culturelles, exploitation et production, pendant une heure on va vous raconter, décrypter et débattre à juste hauteur d'un album ou d'une tournée de la chanteuse. Une fois n'est pas coutume, je vais demander à la team de se présenter, mais je vais ajouter une petite difficulté d'abord. Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous allez vous présenter en deux mots, on va commencer par Bastien.
Ah bah moi c'est facile, roux et alpage.
Pas mal, Thibaut.
Moi, j'ai toujours rêvé d'en être une, alors blonde des Spice.
Ouais, j'adore.
Clément.
Moi, c'est facile. Je pinaille.
Oh, oui. Et Ludo.
Piano, batterie.
Bien.
Et toi, Sylvain?
Animateur et puis ours.
Ah oui.
Un peu notre canet.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Histoire de MF, Histoire.
Avec un S.
Et abonnez-vous sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Mettez-nous des notes, des commentaires, on les lit tous. J'ai tout dit? Alors, on commence tout de suite. Voici Histoire de Millennium Tour, épisode 13, La Communion.
Tu peux monter histoire de... Histoire de...
Il fait chaud ici, il fait chaud là-bas.
Et c'est véritablement une communion qui va avoir lieu entre Mylène Farmer et ses fans à partir de septembre 99. Et pour la première fois, Laurent Boutonnat ne sera pas de la partie. On va vous raconter cette tournée gigantesque. Mais avant tout ça, Bastien, on va revenir aux origines et à l'annonce des concerts.
Bah oui, parce que c'est en décembre 98 et bien avant la sortie de l'album Inamoramento que l'on apprend que Mylène Farmer sera de retour sur scène en septembre 99, donc à Bercy, avec la mise en vente des billets pour ses concerts parisiens. On se doute qu'une tournée va suivre, car on connaît le nom du spectacle, Millennium Tour. Cette tournée est mise en vente à la sortie de l'album Inamoramento en avril 99, album pour lequel Mylène Farmer joue le jeu de la promotion, et évidemment, les intervieweurs essaient d'en savoir un peu plus sur le spectacle, comme sur Energy le 6 avril, mais vous connaissez Mylène Farmer.
Aujourd'hui, on ne connaît pas grand-chose de cette tournée. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que tout est prêt, ou est-ce que vous continuez à bosser dessus?
Je commence.
Vous commencez. Dans vos concerts, on retrouve toujours des chorégraphies à la hauteur des clips. Qu'est-ce que vous préparez pour cette tournée de ce côté-là?
Pas difficile de dévoiler les choses. Ce sera un spectacle et j'espère de l'émotion.
Vous l'avez compris, ça sera un spectacle.
Super. Bon, on est rassurés.
À l'été 99, des spots de publicité sont diffusés sur TF1 où l'on aperçoit la chanteuse sur une échelle filmée par François Hans, rappelant l'affiche de la tournée.
Mylène Farmer, Millennium Tour. À partir du 24 septembre à Bercy et en tournée dans toute la France. Avec énergie.
Aucune information ne filtre, il faut attendre début septembre pour que le magazine Voici lâche la présence de la statue géante sur scène. Et la tournée démarre le 21 septembre à Marseille, avant de filer direction Paris à Bercy pour 4 dates. Les équipes de TF1 y assistent pour un reportage.
Se produire 5 fois à Bercy devant 85 000 personnes en tout, elle est la seule artiste cette année à réussir la performance. En 15 ans de carrière et 3 séries de concerts seulement, la jeune femme, toujours secrète et romantique, est devenue pour beaucoup de jeunes une artiste culte.
Je crois que j'ai mis 7 années avant de monter sur scène parce que j'avais envie d'être prête, en tout cas d'être capable de donner justement ce que j'ai à donner. Parce que je veux ces moments rares. J'ai un public qui est, j'avoue, merveilleux, qui me donne énormément.
La tournée peut à présent démarrer et vous le savez, à l'époque, on compare de plus en plus la chanteuse à Johnny Hallyday. Johnny qui va adouber Mylène lors d'une émission spéciale 100% Johnny présentée par Jean-Pierre Foucault. Nous sommes le 12 novembre 1999.
Oui, moi je l'aime beaucoup personnellement parce que c'est vrai qu'elle fait des très beaux spectacles. Je crois que Mylène est un petit peu comme moi, elle adore la scène, ben, ça se voit d'ailleurs,
ouais.
Ça se voit avec tous les décors et toutes les mises en scène qu'elle fait sur scène. Donc nous avons cette passion déjà en commun, et puis nous avons le public également. Je pense qu'il faut être généreux quand on est sur scène, ce qui est le cas de Mylène. On donne autant qu'on reçoit. Tu sais, il n'y a pas de mystère, les gens ne te donnent rien si tu ne donnes pas quelque chose.
C'est le même avis, je suppose.
C'est vrai.
Ah ben voilà.
Voilà, c'est du Johnny dans le texte et c'est du Mylène dans le texte.
Ah, ouais. Ah, il est super, Johnny.
Et en novembre, Mylène Farmer reprend la route de sa tournée, une tournée qui va finalement s'allonger, initialement prévue entre septembre et décembre en deux parties. Une troisième salve de dates est ajoutée de février à mars 2000, avec pour la première fois des dates en Russie qui signeront la fin de la tournée. On va donc passer l'an 2000 avec Mylène Farmer, et si je vous ai déjà parlé des années 99 et 2000 dans les épisodes Inamoramento et Alizé, je je voulais revenir sur ce passage à l'an 2000, ô combien symbolique et important, à tel point que la chaîne TF1 s'était mobilisée pour une émission exceptionnelle dont on se demande où ils sont allés chercher le nom,
Millennium.
Sans Y, donc 36 heures de direct animé par les animateurs et journalistes de la chaîne. Et le 1er janvier 2000, qui d'autre que le duo Claire Chazal et PPDA pour accompagner le passage du nouvel an en direct de la Tour Eiffel qui s'embrase, ils sont accompagnés de Jean-Claude Narcy et Valérie Benaïm, restés en studio.
3, attention,
2, 1, top 2000.
Bonne année à tout le monde, ça y est, regardez.
Je vous souhaite la plus douce des années possibles.
Très bonne, très heureuse année 2000 à vous tous.
Un nouvel an fun, du fun pour une fin de siècle. L'an 2000 a plus qu'été spirituel avec le Millennium Tour de Mylène Farmer.
Merci Bastien. Place au spectacle avec la première partie de l'épisode. Je vais vous poser la question, qui a assisté au Millennium Tour ici?
Moi
aussi.
Et moi.
Il y avait un gamin dans la salle.
Oui.
Thibaut a assisté aussi au spectacle. Alors vous, vous l'avez ressenti comment ce spectacle? Bon, on va commencer par toi Thibaut.
J'avais un voisin qui travaillait à la production du concert de Bercy. Il nous dit, ma mère et moi, bon, mais je travaille sur la dernière date parisienne de Mylène Farmer, est-ce que ça vous dit d'y aller?
Très sympa.
Et moi j'étais là, ben oui, bien sûr. Et hop, allez, on file au Palais Omnisports parce qu'il fallait arriver avant l'ouverture des portes. On se met à l'entrée des artistes. Nous faire entrer, je traverse les coulisses et j'arrive en fait sur le côté de la scène, pas sur la scène, hein, en bas, j'arrive dans cette fosse qui est vide, immense, et puis à l'époque on pouvait s'asseoir où on voulait, donc il nous dit bah asseyez-vous où vous voulez, on s'installe au premier rang face à la scène, superposition, etc. La salle est vide, ça passe 10-15 minutes, et puis j'entends hurler dans le fond.
C'était
et en fait, ils venaient d'ouvrir les portes,
et
je voyais les fans qui se ruaient pour s'accrocher au premier rang.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà, j'en garde ça et puis après je raconterai le spectacle plus en détail.
Clément.
J'avais tout juste 18 ans, donc j'étais encore assez jeune. Première fois vraiment que j'allais voir Mylène Farmer sur scène après mon rendez-vous manqué du Tour 96. Hein, je vous renvoie à l'épisode 11. Moi, j'y suis allé donc dans la dernière partie de la tournée, donc en février 2000 à Metz. Et là où c'était vraiment dingue, c'est que j'arrive dans la salle, je me mets en fosse, je me mets près de la régie. Et à côté de moi, j'entends parler en anglais. Je me retourne et dans la régie, je vois Abraham Laboriel Jr. qui discute avec Jeff Dahlgren, mais à un mètre de moi. Quoi. C'était comme si je rentrais dans le film du concert, quoi. C'était incroyable.
Toi Ludo?
Moi j'y ai pas assisté, hein. Je me souviens avoir découvert la liste des chansons dans Star Club avec un descriptif du concert, les photos, tout ça, et j'ai pris connaissance de chansons dont je n'avais jamais entendu parler, comme Mulaney Calling et Dernier Sourire, donc je me demandais ce que c'était, et je trouvais les photographies très mystiques avec ce paradoxe de la trouver vachement lumineuse dans un univers qui avait l'air assez sombre, et c'est le premier CD de Mylène Farmer acheté le jour de sa sortie pour moi, et acheté en même temps que l'album Gourmandise, dont on a fait un épisode spécial il n'y a pas très longtemps.
Mm-hmm. Et toi Bastien?
Autant je me rappelle très bien de la sortie d'Innamoramento parce que ma mère l'avait acheté, autant j'ai pris connaissance, je pense, du concert vraiment parce que peut-être ma cousine en avait parlé, que j'ai vu les images une fois terminées au Energy Music Award, et c'est là que du coup j'ai eu une petite curiosité, j'ai vu le CD que ma cousine avait acheté, donc le CD doré et tout ça. Moi, nous on l'avait pas à la maison, c'est vraiment un peu plus tard dans l'adolescence que j'ai acheté le DVD, que je l'ai beaucoup regardé à cette époque-là, mais ça n'évoque pas grand-chose pour moi, cette période en tout cas de la carrière.
Et toi Sylvain?
Alors moi c'est mon premier vrai concert de Mylène, dans le sens où c'est moi qui ai choisi d'y aller. La dernière fois je disais que j'avais été invité, et là vraiment, moi j'ai pris des places dès qu'on a su qu'il y avait les concerts. Ça a été un moment magique, on l'a appelé la communion, c'est exactement ça en tout cas pour moi.
Tu faisais partie de ces gens qui criaient et qui m'ont effrayé.
Certainement. Histoire de... Je criais, mais surtout je chantais. Et on chantait quoi, Bastien, sur ce spectacle?
Comme pour ses deux précédents spectacles, Mylène Farmer adapte avant tout son dernier album sur scène. C'est le cas également pour Innamoramento. 10 titres de l'album composent le socle du spectacle. Millennium, L'amour naissant, L'Amstramgram, Optimistique moi, Méfie-toi, Dessine-moi un mouton, Pas le temps de vivre, Je te rends ton amour, Souviens-toi du jour et Innamoramento. On remonte dans le temps avec l'album Anamorphosé qui est représenté par les chansons California et Rêver. L'album L'autre qui n'a pas eu le droit à une tournée continue à bien être représenté, évidemment par le tube Désenchanté, mais également par 3 titres encore jamais chantés sur scène, Beyond My Control, Regret et Il n'y a pas d'ailleurs. De quoi foutre l'ambiance sur scène.
Ah ouais.
Enfin, les deux albums des années 80 sont expédiés dans un medley, un tout en un articulé autour de la chanson Pourvu qu'elle soit douce, accompagné de Maman a tort, Libertine et Sans contrefaçon. On écoute un extrait.
Je suis
Et les années 80 sont aussi représentées avec l'interprétation de Dernier Sourire, la face B de
Sans Logique.
Pour le coup, là, elle a encore fait moins de chansons des années 80 sur le tour 96. Et il y a ce Dernier Sourire qui ressurgit un peu de nulle part. Oui. Parce que je pense que cette chanson, à part vraiment, il fallait la connaître quand même.
Ah, moi, je ne la connaissais pas, moi, par exemple. Et je l'appelais Parle-moi encore. Ou
comme beaucoup le faisaient.
Tu t'endors, ouais. Ou je sais pas quoi.
Je la connaissais, moi, Dernier Sourire. Je me souviens très bien d'une jeune fille à côté de moi qui me regardait chantonner, qui disait mais il les connaît toutes, c'est pas possible. Donc voilà, ça laissait beaucoup de gens sur le carreau. Il y a également des chansons qui ont été laissées tomber en cours de route.
Oui.
Consentement qui a été remplacé par Rêver, mm-hmm. qui a vraiment été improvisé à quelques jours de la première, d'où peut-être aussi le fait que son orchestration soit très minimaliste. Puis il y avait ce fameux medley, alors qui est très mystérieux comme ça sur le papier, c'était À quoi je sers, Will Never Die. Alors oui, comment est-ce qu'il était structuré?
Oui, on sait pas.
Moi, je voudrais revenir, il y a l'absence des années 80, mais moi, c'est l'autre en fait qui m'impressionne. Sur le tour 96, on en parle, elle chante de gros tubes et puis l'autre, mais là, elle refait vivre encore l'album, c'est incroyable.
Oui, il a pas eu de tournée finalement.
Il a été très incarné sur scène.
Alors, je vous l'avais dit, Mylène Farmer se produira pour la première fois en Russie. Et la setlist sera également différente, car la chanson « Que mon cœur lâche » sera interprétée à la place de « Beyond My Control ». La chanson « Il n'y a pas d'ailleurs » sera également écartée pour laisser sa place plus tard dans le show à « Je t'aime mélancolie ». Enfin, un air russe, « Les yeux noirs » sera joué à la place de « Pas le temps de vivre ».
Mylène Farmer, elle parle pas russe, et je trouve que c'est très fin de jouer un air folklorique du pays pendant un interlude, de leur avoir donné un signe d'adaptation à eux, à leur culture, etc. Je trouve ça très très fin.
Et cette liste, du coup, est-ce qu'elle vous a convaincu?
Bon, moi, si je me replonge dans le contexte de l'époque, ce qui m'avait agacé, c'était le strict minimum d'Anamorphosé. Mais bon, on est d'accord que voilà, il faut évoluer, et au contraire, comme on l'a dit, elle présente d'autres chansons, et surtout, vraiment, chapeau d'aller chercher pour un spectacle qu'on emmène en tournée, qui donc par définition est populaire, d'aller amener des chansons qui au contraire le sont pas du tout.
Oui, comme il n'y a pas d'ailleurs, Dernier Sourire.
Une vraie audace, franchement.
Les gens viennent voir Mylène Farmer en concert, viennent entendre les tubes.
On les entend quasiment pas.
Et Libertine et Sans Contrefaçon font 30 secondes parce qu'elles sont mises dans un medley, alors c'est un parti pris. Mmh. C'est vraiment embarquer les gens dans son univers plutôt que de faire un concert populaire.
C'est défendre son album.
C'est original, mais je suis content qu'elle l'ait fait qu'une fois.
D'un autre côté, voilà. Bah, pour moi, tu dis original, moi je trouve que c'est une vieille façon de faire des medleys en fait. Donc tu vois, c'est marrant. Bastien.
Moi j'aime beaucoup le côté musical de cette mise en scène, de pourvu qu'elle soit douce.
C'est
une parenthèse dans le spectacle à un moment, même si effectivement je comprends la frustration, et c'est vrai qu'on est frustré.
Il y a quand même un côté festif, il y a de la pyrotechnie.
Moi je m'en souviens vraiment de ce moment en live. Il y a aussi voilà, dans la structure de la setlist, passer l'Amstramgram, on enchaîne avec Beyond My Control, Rêver, Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a plus dynamique comme début de spectacle et ça plombe un peu le rythme. À la différence peut-être d'un tour 96 qui était plus dans l'efficacité du show.
Qui était plus un concert effectivement.
Voilà, qui était plus un concert.
Là on est plus dans un spectacle.
Là ils ont eu le temps de, je vais pas dire écrire une histoire parce que c'est toujours très flou, en tout cas voilà, structurer et vouloir faire quelque chose de cohérent du début à la fin.
Oui, si on parle de l'ambiance d'Inamoramento, on peut trouver que c'est un spectacle qui est plus poétique, plus romantique qu'un spectacle assez électrique
et brut.
Et brut, voilà, du tour 96. Histoire
de... Alors Ludo, il y a qui avec Mylène sur scène?
Alors pour la présentation des musiciens, ça va être très simple. Mylène Farmer va s'entourer en majorité des mêmes musiciens que sur la tournée précédente de 96, à quelques exceptions près. Alors on va d'abord parler des gens qu'on a retrouvés. Donc toujours le chœur, le brillant Abraham Laboriel Junior à la batterie, qui tourne toujours avec Sir Paul McCartney. À la basse, nous avons Jerry Watts Junior, encore un junior d'ailleurs, tiens, qui a un CV éclectique allant de la pop au jazz en passant par le rock et la world music. À la guitare, on retrouve Jeff Dahlgren. D'ailleurs, ces trois musiciens que je viens de vous citer, ils ont la particularité d'avoir aussi joué sur l'album qui accompagne la tournée Inamoramento.
Ouais, ouais.
On retrouve aussi sur scène Brian Ray à la guitare, qui lui aussi a beaucoup travaillé avec Paul McCartney et Etta James. Si je vous dis les hommes,
je les cousins.
Oh, Esther.
Voilà. Et enfin, celui qui va désirer retravailler avec eux, ce n'est autre qu'Yvan Cassar au clavier et à la direction musicale. Et il va intégrer des nouveaux. pour le seconder au clavier Éric Chevalier. Ah. Et c'est vraiment un binôme de travail et ami hein, de Yvan Cassar, qui l'a très souvent inclus dans ses projets avec Grégory Lemarchal, Serge Lama, Florent Pagny, Claude Nougaro. Et nous avons pour finir une nouvelle choriste, Johanna Manchek-Ferdinand, qui va, pour une génération de fans que nous sommes, immortaliser le duo scénique dit
Esther et Johanna.
Ah, voilà. On va souligner l'absence de percussion qui a bel et bien été évoquée pendant la préparation du Millennium Tour. Et anecdote, il voulait contacter Suzy Davis. Vous
et
savez,
oui,
qui faisait guitare, clavier, accordéon, tout ça.
Son accordéon.
Elle a changé de numéro de téléphone et donc du coup, c'est tout simplement passé à la trappe.
C'est drôle quand
c'est même. C'est les années 90. À quoi ça tient?
Ça tient à rien. Et justement, on va stipuler qu'il y a eu une troisième partie de tournée ajoutée au fil du temps, alors qu'Yvan Cassar s'était engagé sur d'autres projets. Il va avoir un remplaçant pour quelques dates et ce sera Gilles Erhardt. Et alors, il y a un point commun à la majorité de ces personnes, c'est Johnny Hallyday. C'est Johnny, en découvrant Mylène Farmer pour la première fois sur scène à Bercy en 96, et ben il s'est dit « Cette équipe-là, mon vieux, elle est terrible !» Et il va demander à Yvan Cassar de s'occuper d'une partie de sa direction musicale à la fin des années 90. Et c'est ainsi qu'on va retrouver chez lui aussi pendant quelques années ce même casting de musiciens.
Et beaucoup d'articles reprennent la présence d'Abraham comme le batteur de Johnny au Stade de France.
Alors que c'est l'inverse. Et aussi une manière de dire qu'en influençant notre Johnny national, Mylène Farmer est devenue une référence en matière de spectacle.
Merci Ludo. Histoire de... Thibaut, tu nous parles de la mise en scène ?
Absolument, parce qu'après la relative sobriété du Tour 96, Mylène Farmer décide de renouer avec un véritable décor digne d'un opéra, et pour cela elle fait appel à Guy-Claude François, dont la spécialité était les décors de théâtre et de cinéma. Il a notamment travaillé sur le Pacte des Loups de Christophe Gans. Après avoir rencontré la chanteuse et visionné ses précédents spectacles, il était, je cite, « très impressionné par l'enthousiasme quasi idolâtrique qu'elle inspirait aux spectateurs. De là lui vient l'idée d'une statue géante représentant Mylène comme une déesse portant elle-même la scène sur ses genoux.
C'est un poil mégalo.
Au fil des réunions, l'idée de représenter Mylène laisse place à celle de représenter Isis, déesse de l'Égypte antique, sœur et femme du roi Osiris, inspirée par un dessin du graphiste et illustrateur suisse Hans Giger, à qui l'on doit notamment l'affreuse créature star du film Alien de Ridley Scott en 1979. Une statue imposante, 11 mètres de haut, mais un élément iconique de la carrière scénique de Mylène Farmer.
Complètement. Énorme.
C'est
énorme.
Vraiment une très 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 belle réalisation.
Ah oui, très très beau décor fait par Artefact.
Avec le recul, c'est peut-être un décor qui prend peut-être trop de place par moment et qui est un peu statique, mais
la scène est petite en fait.
Mais sur certains titres, elle s'effaçait complètement avec les éclairages et ça c'était très très bien trouvé.
Précisons tout de même que pour elle c'était vraiment important de présenter le même spectacle, que ce soit à Paris, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Russie et dans le reste de la France. Voilà, n'importe quelle salle. Donc c'est quand même un spectacle itinérant d'une qualité. Remarquable.
Il y a un vrai paradoxe dans cette scène qui est vraiment aussi gigantesque qu'intimiste. Et il y a une vraie bulle. Ce côté aussi bulle, c'est cet arrondi derrière. Et il y a un prolongement de la statue jusque dans la scène. C'est-à-dire que la scène, vraiment, le sol est sculpté. On voit comme un mécanisme d'horloge.
Ouais, certains musiciens sont sur un engrenage géant.
Exactement.
Et je trouve que la lumière la met vraiment bien en valeur. Ça n'a pas dû être facile pour Fred Péveri qui a travaillé dessus, parce que ça devait être très compliqué de la mettre en valeur et à la fois, comme disait Clément tout à l'heure, de l'effacer de temps en temps pour respirer un petit peu aussi pendant le spectacle. Je trouve que c'est un élément clé et un élément aussi qui nous ramène un petit peu à la Mylène de 89 avec quelque chose d'un peu mystique. On est dans quelque chose de moins triste, peut-être moins lourd, mais on retourne vers quelque chose de plus érudit que le Tour 96 qui n'avait pas cette vocation du tout.
Difficile de passer à côté de cette statue, c'est peut-être pour ça qu'elle était dissimulée des yeux des spectateurs lorsqu'ils faisaient leur entrée dans la salle. On retourne en 1999, c'était un immense rideau grisâtre qui accueillait le public du Millennium Tour. Rien ne transparaissait du décor avant que le noir ne se fasse dans la salle et que l'introduction du titre Millennium se fasse entendre. Un mystérieux rideau éclairé par des spots bleutés qui tombent avec l'arrivée des notes de synthétiseur, dévoilant une imposante statue baignée d'une lumière rouge. Alors que le titre progresse en intensité, la tête de la statue se redresse, un break de batterie se fait entendre et elle s'ouvre en deux au son des chœurs, faisant apparaître Mylène Farmer. La chanteuse qui apparaît telle une déesse mystique s'envole pour se poser délicatement au creux de la main de cette statue protectrice. Tout un programme.
On replonge dedans là.
Je vais vous dire, je suis pas dans l'émotion, franchement. Mais au moment de l'ouverture de la tête de la statue, donc cette seconde-là, j'ai eu un choc dans la poitrine. Tellement c'était visuellement fort. Et la scénographie était en symbiose parfaite avec la musique, avec tous ces éléments qui s'additionnent petit à petit pour arriver à l'ouverture de la tête de la statue.
Je mets un tout petit bémol avec le recul, c'est un poil mégalo et un poil Johnny Hallyday, mais ça va exactement avec l'époque, l'hystérie du moment, le machin. Donc c'était parfait de faire ça, et tant pis si ça peut être vécu comme un poil too much par certains.
Moi je pense que de toute façon, il y a toujours un côté mégalo quand on fait un spectacle, c'est l'essence même du spectacle, c'est de faire quelque chose d'extraordinaire et marquant.
Et cette entrée, elle représente ce que représente Mylène Farmer à ce moment-là, en 1999.
Elle entre sur Millennium, mais en fait la vraie première chanson, c'est L'amour naissant.
Absolument.
Titre très aérien, il y a une douceur qui s'installe après une entrée qui bouscule, quoi.
On a parlé de l'entrée en scène, on a parlé du premier titre, et on va évoquer la sortie, le titre Inamoramento, chanson éponyme de l'album sorti quelques mois plus tôt.
Il n'y a pas grand chose à dire sur ce final, c'est très beau.
Le meilleur choix possible.
Voilà. La communion, on est là. Et la sortie, elle est bien plus sobre que l'entrée. Elle très très belle.
Il y avait des vagues de lumière comme ça qui balayaient la salle et qui nous emportaient avec le refrain. C'était vraiment très très beau.
Après la vision dramatique de 89 et la vision électrique de 96, nous avons ici une version poétique, je dirais, puisqu'à la fin du titre, Mylène remonte sur la main de la statue qu'il a accueillie en début de concert et elle achève le spectacle avec sa prière Inamoramento qui a elle aussi ouvert le spectacle avant que le rideau ne tombe.
C'était très beau avec juste le visage de la statue qui était éclairé et qui se rebaissait vers Mylène. Et puis avec une image assez photographique, c'est-à-dire quand le rideau tombait, il y avait une toute petite seconde où l'image de Mylène éclairée dans la main de la statue persistait un peu comme la flamme d'une bougie avant de s'éteindre. On le voyait encore en transparence à travers le rideau. Et puis presque aussitôt, la lumière crue de la salle se rallumait et on était réveillés.
Et Thibaut, tu vas aussi nous parler des costumes.
Après avoir envisagé une collaboration avec John Galliano, Mylène Farmer s'est tournée vers Dominique Borg, costumière de cinéma notamment. Elle a d'ailleurs reçu un César pour les costumes d'un film dont je vous ai parlé juste avant.
Le Pacte des Loups, c'est ça ?
Merci, il y en a un qui suit là. Le travail entre Dominique Borg et Mylène Farmer a été plus collaboratif qu'avec Paco Rabanne 3 ans auparavant, puisqu'elles ont vraiment collaboré ensemble à partir d'inspirations communes issues de la mode, d'images de défilés ou de morceaux de tableaux. Un travail qui s'est effectué à Paris avec des essayages qui ont eu lieu à Los Angeles où Mylène préparait son spectacle. Alors, comme c'était un peu compliqué pour permettre que tout le monde gagne du temps, Dominique Borg a fait faire un moulage du corps de Mylène Farmer par un sculpteur.
Trop bien.
Moulage dont Mylène a refusé qu'on le fasse circuler en dehors de l'atelier.
Bah, bien heureusement.
On va s'arrêter sur la tenue de l'entrée et du final, qui est la même. Concernant la matière, Dominique Borg est parti d'un travail de haute couture que lui avait montré une de ses collaboratrices. Elle filait des bas et passait de toutes petites gouttes de résine sur chaque petite interstice, ce qui donnait l'impression d'une toile d'araignée avec de la rosée, jouant avec un effet de transparence pour faire ressortir la silhouette de la chanteuse.
Sublime.
Un modèle fortement inspiré par la tenue finale du défilé automne-hiver 84 d'un certain Thierry Mugler.
Ah. Thierry Mugler qui
a signé les costumes de 89.
Alors moi je suis pas très attentif aux vêtements et j'avoue que j'ai découvert très tardivement que c'était la même tenue.
Bah, en fait, elle a juste pas le voile.
Voilà,
en fait.
Mais ça m'avait pas choqué. Et j'ai trouvé celle du final magnifique et celle de l'entrée en scène, je trouvais pas ça terrible. Ah. Non, mais ça, comme quoi, la perception.
Elle porte la même tenue sur l'entrée et sur le final. À la base, ce n'était pas le cas.
Alors,
et oui, lors de la première date à Marseille, elle avait une robe différente pour le final. Oui. Une robe qu'on a longtemps considérée comme vert émeraude. Et son habilleuse de l'époque, Nelly Giraud, confirmait qu'elle était également argentée.
Tout à fait. Voilà.
Une longue robe avec un décolleté profond et une décoration en paillettes argentées à la taille, une tenue abandonnée car Mylène Farmer ne se serait pas sentie à l'aise dedans. Voilà. Il y a également cette très belle robe rouge du tableau Je te rends ton amour, souviens-toi du jour, une réinterprétation de la robe du clip du premier titre avec cette très très longue traîne. Un autre costume phare de ce spectacle.
Quand elle arrivait sur scène avec cette robe, c'était, oh, c'était vraiment
iconique,
magnifique.
Ouais. Ouais.
Justement, j'aime beaucoup cette robe rouge, mais c'est, je crois, la seule tenue que j'aime de ce spectacle. Je trouve que tout a très très mal vieilli. Puis il y a aussi le petit costume de Pourvu qu'elle soit douce et d'Optimistique moi, que je trouve assez iconique avec le fessier. Mais je suis pas très très emballé par cette tenue de scène.
C'est le sentiment que j'avais aussi à l'époque. Enfin, tu vois, déjà à l'époque, je trouvais non pas qu'ils avaient mal vieilli, mais j'avais du mal. Après, voilà, il faut se remettre en tête que c'est le monde la plus du théâtre, de
exactement.
L'opéra.
Moi, je les vois comme ça.
Il y a quelques costumes, effectivement, je trouve qu'on assez vieilli. Je pense à ceux de l'Amsterdam Graham, par exemple.
Ouais,
et je pense à la, j'ai toujours appelé ça la robe de chambre de Pas le temps de vivre, que je trouve pas très,
c'est voilà. Marrant parce que j'ai pas du tout cette vision-là.
Et moi non plus, j'ai pas du tout cette vision-là. Pour moi, c'est très intemporel parce que c'est vraiment des tenues de spectacle et vraiment d'opéra. Elles sont vachement travaillées.
Ah, oui.
Mais celle, par exemple, de l'Amsterdam Graham, moi, je la trouve absolument génial.
Je l'ai dit, ça m'étonne pas. Parce que c'est pareil.
Non, mais oui. Mais parce que il y a vraiment un travail sur le mélange de matière. Il y a des choses un peu clinquantes, un peu kitsch qu'on peut retrouver parfois dans les costumes d'opéra, justement. Et puis, moi, ça me plaît. Il y a de la couleur. Puis on est un personnage.
Ah bah là, cette couleur, tu pouvais pas la rater.
Puis
hein.
Dans l'immensité d'une salle, d'une scène, il faut être visible, il faut être identifiable. Et je trouve que ça remplit exactement son rôle. Moi, je trouve ça absolument génial.
On a parlé des costumes, mais on peut pas parler des costumes qu'elle n'a pas portés.
Ah oui.
Parce que, à noter, une robe qui a été envisagée et créée, et une robe envisagée parmi Mylène Farmer elle-même, extrêmement près du corps et simulant des coulées de sang, jugée trop fragile, ne sera pas retenue pour le spectacle, mais on pourra la voir, comme on l'a évoqué lors de cette prestation de Souviens-toi du jour sur l'émission consacrée à Johnny Hallyday en novembre 99, et surtout 6 ans plus tard sur l'affiche de la résidence avant que l'ombre à Bercy.
Superbe
elle
tenue.
Est magnifique cette robe.
Ouais. Une fois n'est pas coutume, on va remercier Stéphane.
Ouais,
merci
beaucoup
Stéphane pour cette rubrique. Allez consulter son fabuleux Instagram lmmf.mode. Histoire
de... On poursuit l'épisode avec les moments phares de la team HDMF. On va commencer avec Ludo, je crois.
Eh bien, bien sûr. Est-ce que vous entendez ces sons un peu asiatiques?
Ah, ouais. J'adore.
C'est l'Amsterdam Graham. C'est un peu la chanson qui lance le spectacle avec le public. On entre vraiment dans un univers travaillé, c'est-à-dire il y a des nuées de lumière bleue pour ouvrir la chanson et balayer la troupe. Les danseurs qu'on voit pour la première fois, avec cette chorégraphie aussi statique que gracieuse pour moi.
Ouais, j'adore cette chorégraphie, c'est très visuel, tous les mouvements sont hyper synchro.
Puis vient les lumières chaudes, rouge, orangé, il y a une unité entre les costumes, le décor, le rendu il est vachement efficace je trouve. C'est là où aussi on découvre le rôle des écrans qu'il y a dans le décor et qui vraiment s'intègre parfaitement. Ça installe un contenu et un climat au spectacle. Ouais. Et après musicalement, comme le long du concert, ça manque de programmation, autant de sons et de percussions, ça lui donne un rendu acoustique alors que c'est une chanson qui n'est pas vraiment pensée comme ça, mais globalement je trouve que ça fonctionne, un moment qui met l'ambiance qui va rester pendant tout le concert.
Alors tu parlais de la version vraiment musicale sur scène, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, il y a une vraie différence entre les représentations et ce qui a été immortalisé sur CD, sur DVD. Voilà, la version était vraiment très bonne. Ça levait le public immédiatement et puis il y avait cette chorégraphie, toute la troupe, c'était formidable.
On passe à Sylvain, qu'est-ce que tu as choisi ?
Optimistiquement. Cette chanson en live, c'était une tuerie, vraiment une tuerie totale. Je crois que c'est ma chanson préférée de Mylène Farmer. Donc j'étais comme un fou. Je trouve la tenue en plus magnifique. Enfin, je la trouve iconique. Je la trouve vraiment iconique.
Très
la Corée, on la connaissait pas parce que c'est vrai que maintenant on la revoit.
Ouais.
On l'a vue sur des plateaux télé.
Salle,
mais en fait, à l'époque, elle était inédite puisque moi je l'ai vue le 26 novembre à Angers. Alors je vais pas vous parler spécialement de la Corée. Voilà, je l'ai fait. Enfin voilà, c'est un.
Tu l'as fait ?
Tu l'as fait ?
Ah bah non, je sais pas
la
faire
Corée,
ça.
La Corée.
Non, moi j'ai surtout vous parler de l'intro de cette chanson qui en fait commence avec Mylène is calling. Avec une Mylène qu'on voit au fond de la scène et puis tout à coup la musique qui commence et on voit la poursuite qui va à gauche de la scène et en fait Mylène c'était pas Mylène.
Ah.
Voilà, c'était Valérie Bonny qui faisait sa doublure.
Oui, bien pensé.
Idée simple et qui marche d'enfer.
Ah oui,
quoi.
Efficace.
Allez, on va passer à Clément, t'as choisi quoi comme moment ?
Ah, moi j'ai choisi Regret.
Thank you.
C'est un moment très poétique dans le show.
Très
et
bon
puis,
choix.
Évidemment, pour la réinvention de la chanson. Jean-Louis Murat n'est pas là. Et on n'est pas face à la facilité d'un duo virtuel qui commençait à devenir très courant dans le domaine des concerts. Et au contraire, Mylène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie la chanson, elle s'approprie l'ensemble des couplets sans imiter l'interprétation de Jean-Louis Murat.
Bah, heureusement.
La mélodie est adaptée à sa voix. L'orchestration, elle est plus directe, elle est plus acoustique.
Oui.
Et sur scène, c'était visuellement voilà, un très très beau
le
moment.
Retour de la neige.
La neige en paillettes.
Avec des éclairages très rouges. Le feu qui flambe dans la paume de la statue. C'est très poétique, très subtil.
Je trouve que Mylène l'a vraiment bien faite seule. Par contre, sur le deuxième refrain, moi je trouve que les choristes auraient pu...
Une petite évocation de la partie de Jean-Louis
Murat. Ouais, il aurait pu avoir ça.
Et puis je parlais de l'arrangement qui était très live. C'est une des rares pistes qui, sur le CD, est très très fidèle au live.
On va passer à Bastien. C'est quoi ton moment fort à toi?
J'ai hésité entre deux moments et qui suivent. Donc j'avais pensé à California, dont je trouve la version groove très très belle.
Très jazzy.
Et j'ai choisi la chanson qui suit. C'est un moment complètement suspendu. C'est Pas le temps de vivre. Acclamation qui suit.
Beau,
hein. Je trouve qu'elle offre à la chanson ce qu'elle méritait en fait, avec ce côté très pur, cette application dans le chant au début de la chanson. C'est exactement ce que j'attendais sur cette chanson, ce moment suspendu et assez magnifié.
Les trois premiers spectacles de Mylène Farmer sont assez construits de la même façon, et puis elle a la même place dans la setlist que Ainsi soit-je en 89 et Rêver, Laisse-le emporter tout en 96. C'est la balade un peu fédératrice. Et,
c'est le moment de communion.
C'est très très beau, un très très beau moment. La seule fois où elle aura chanté ce titre en live, c'était tellement réussi. Oui.
Et puis c'est très très courageux de commencer une chanson en a cappella.
Ah ouais, deux couplets a cappella. Oh ouais.
C'est le dernier des cinq qui a ne pas y être passé. À toi Thibaut.
Oh, allez, mets le son.
C'est beau. Hein.
Souvenez-vous du jour où on a fait Inamoramento,
ouais.
On s'était dit que c'était un hymne
ouais, fédérateur.
Je trouve qu'en live, voilà, ça s'est incarné vraiment, avec une très très belle émotion aussi en live.
Il est très prenant comme titre.
C'était le final du spectacle, avant le rappel, et puis elle la faisait durer, des fois,
plus
de 10 minutes.
C'est un vrai moment de spectacle.
Avec tous les danseurs autour d'elle, toute la troupe, enfin vraiment un très très beau final de spectacle. Et c'est une chanson qui, pour moi, aurait pu avoir une belle carrière scénique.
Oui,
voilà.
Elle a fait
le choix de ne pas la rechanter, de ne jamais la rechanter sur scène.
Nous sommes en janvier 2020, elle n'a jamais rechanté pour l'instant, souviens-toi du jour.
Ça restera sur le Millennium Tour, mais ça restera quand même quelque chose d'assez magnifique. Enfin, vraiment, c'est un des moments de scène les plus beaux, en tout cas, qu'elle ait dans sa carrière scénique.
Ouais. Deuxième partie de l'épisode avec les souvenirs de tournée. On va passer aux auditeurs, ont la parole avec Bastien. On a encore eu beaucoup d'auditeurs qui ont répondu à l'appel à témoins qu'on a lancé il y a quelques semaines. Merci à tous. Alors Bastien.
Oui, vous avez été donc nombreux à avoir passé le cap de l'an 2000 avec cette tournée. Et on commence avec une jolie histoire, car figurez-vous que nous avons reçu notre tout premier témoignage en anglais.
Oh, cool.
Ah, trop bien.
C'est l'histoire de Manuel, qui était venu exprès de Londres voir le Millennium Tour à Bruxelles, figurez-vous.
C'est génial.
J'avais 18 ans, j'attendais depuis des années pour la voir en concert. L'attente à l'extérieur de la salle était longue, et quand je suis arrivé au premier rang, j'étais fatigué mais
ravi et heureux. Quand le spectacle a commencé, j'étais comme dans un film et je ne pouvais croire que c'était Mylène. Premier concert à Marseille pour Terence. Il a à l'époque 17 ans. Je n'avais jamais imaginé pouvoir, dans une si grande salle, avoir une émotion si intime, entourée d'autant de gens, réussir à créer cette proximité de loin. Elle est là pour chacun de nous et donc pour moi. Wow. Première fois également pour Johan. À l'époque, il a 16 ans. Il sèche les cours pour aller voir le concert à Lyon. Et attention, il fout la pression à ses parents pour être bien placé. Hein. Il se souvient surtout d'une chanson dont il n'avait jamais entendu parler et qui l'a beaucoup touché ce soir-là.
Bah, à l'époque, voilà, c'est y a encore pas le streaming musical. Donc, en découvrant la setlist, un petit peu avant d'aller au concert, je me rends compte qu'il y a deux titres inédits que je ne connais pas du tout. Dernier sourire qui est en live, du coup, me stupifie, m'émeut, magnifique. Et à l'époque, je me rappelle, avec mon vieux fournisseur AOL, en 56K, avoir laissé brancher pendant 3 jours l'ordinateur allumé, avec l'écran éteint, par contre, pour pas me faire griller, pour télécharger Dernier sourire. 3 jours pour attendre cette chanson.
On adore l'anecdote du 56K.
Oui, voilà, et oui, c'est la France AOL des 56K. Hein. Vous vous en souvenez, on l'a tous vécu. Ouais. C'était il y a 20 ans.
Et on peut que le rejoindre sur l'émotion de Dernier sourire.
Oui, évidemment. Comme on le comprend.
Et on avait fait un bond dans le temps, pourtant, avec ce spectacle. Et certains soulignent la différence avec le précédent spectacle qu'ils avaient vécu en 96. C'est le cas d'Hélène qui a commencé ses études d'infirmière avec le Tour 96 et qui les a terminées avec le Millennium Tour.
La boucle est bouclée.
Elle s'est rendue à Lille. L'ambiance de ce concert contrastait complètement avec le précédent, complètement différent alors que seulement 3 ans les séparent. Beaucoup de maturité dans ce concert. Mylène s'y dévoile davantage. Je le trouve plus intime.
C'est sûr.
Même constat pour Janda qui l'a vu à Lyon. Un moment tant attendu. Une Mylène plus timide que sur la dernière tournée. Plus douce mais si souriante, une communion. Une communion avec le public, mais aussi en famille, c'est ce qu'a vécu Élodie.
Je me souviens, mon père m'avait payé les places à Noël 99. C'était une immense surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis allée la voir le 25 février 2000 au Gaillant Expo de Douai. C'est un souvenir immense. Tout ce début d'entrée en scène avec la salle plongée dans le noir complet, la grosse caisse d'Abraham qui résonnait dans ma poitrine. Avec mon père, on s'est regardé. Lui m'a fait signe que lui aussi, ça résonnait dans sa poitrine. Et quand la tête de la déesse égyptienne s'est ouverte en deux et que Mylène est apparue, c'est devenu tout flou dans le sens où j'ai pleuré. C'était vraiment énorme. J'avais jamais ressenti ça avant. Et voilà.
C'est fort. Hein.
Ouais, c'est vrai ce qu'elle dit, Élodie. La résonance de la batterie dans la poitrine quand on était dans la salle, c'est quelque chose qu'on ressentait vraiment.
Une autre auditrice, Mathilde, a vécu le Millennium avec ses parents, des parents qui n'hésitent pas à faire du chantage pour obtenir la paix de leurs enfants.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Mon tout premier concert de Mylène, c'était le 25 septembre 99 à Bercy. J'étais là avec ma mère, j'avais 14 ans et ça faisait à peu près un an que j'étais fan. Alors j'ai très peu de souvenirs de ce concert, je sais juste que j'avais été très impressionnée par son entrée sur scène et j'étais aussi très très envieuse de tous ces gens qui étaient en fosse alors que moi j'étais en gradin. Par contre, ce dont je me souviens vraiment très bien, c'est de l'état dans lequel je me trouvais le lendemain, parce que j'avais vraiment vécu un moment hyper fort et j'étais très triste en fait, j'avais l'impression que je ne la verrais plus jamais, donc j'arrêtais pas de pleurer. La date supplémentaire du 13 décembre avait été annoncée quelques temps avant, et je revois encore ma mère me dire « si t'es sage cette semaine, samedi prochain on retourne à Bercy et on achète des places ». Eh ben, j'ai été sage, on est retourné au concert le 13 décembre et c'est une aventure qui dure depuis 21 ans.
Wow. Ben voilà comment avoir la paix. 20 ans que ça dure pour Mathilde. Des moments intenses, c'est ce que raconte Alexandre qui était à Bercy également. Le Millennium Tour est le climax de mon amour pour Mylène. Je trouve que dans ce show, elle est au top de son émotion vocale, elle est au top de sa beauté. Elle a un parfait mélange de fragilité et de force que j'aime chez elle. Ah oui. Afid lui résume son ressenti ainsi. En sortant du concert, je me suis dit « Ah ouais, ah bah ben d'accord !» Et vous le savez, cette tournée s'est terminée triomphalement en Russie. Et à l'époque, des voyages de fans français sont organisés notamment par le fan club parisien, le MFIFC, qui se transforme en véritable tour opérateur pour découvrir les villes de Moscou et Saint-Pétersbourg. Un voyage auquel notre auditeur Chris a pu participer et il en garde un très bon souvenir.
Super organisation avec des visites guidées dans chacune des deux villes. Guide que nous avons pu d'ailleurs inviter sur les concerts et qui était en larmes en remontant dans le bus à la fin. C'était trop beau. Et la joie de hurler désenchanté devant l'Olympinski avec quelques fans russes. Et quel cadeau à Saint-Pétersbourg, car Mylène avait tenu à ce que les fans français soient tout devant. Quel bonheur que ce dernier concert, riche en cris sur Que mon cœur lâche et Je t'aime mélancolie, les deux inédits des concerts. Et en émotion, bien sûr, en voyant certains danseurs pleurer à la fin avec nous.
C'est génial ce voyage en Russie
comme
ça. Ouais,
c'est vrai, oui, il y avait eu ça à l'époque.
Voilà, donc merci beaucoup à Chris, merci à tous.
Merci Spassiba. Beaucoup.
Oui,
thank you so much.
Spassiba. Histoire de... Hey!
et on va parler de la revue de presse. Bastien, toujours, tu restes avec moi. Il se disait quoi dans la presse sur le Millennium Tour ?
Mais vous allez voir, en fait, c'est avec le Millennium Tour et sa mise en scène très ésotérique que vont vraiment naître les comparatifs entre la chanteuse, son public et une déesse et ses adorateurs. Oui. Un public formidable pour une Mylène divine, titre La Provence, qui développe dans son article un Millennium Tour placé sous des auspices mystiques et compare le concert à une grande messe de la divine prêtresse. À Bercy, le culte voué à Mylène pour le JDD, à la grande messe des Farmériens, ça c'est la Voix du Nord, et qui parle dans son article de 7000 adorateurs, et Dieu créa Mylène pour Nord et Clair. Quant au journal lyonnais Le Progrès, il parle carrément d'une religion Mylène Farmer. Mais alors, il y en a qui vont pas du tout être en adoration devant la chanteuse, ce sont les journalistes qui, dans une large majorité, ne sont vraiment pas convaincus par cette tournée. Ouais. Il y a vraiment des critiques parfois assassines. On sent en fait qu'on est en pleine époque où Mylène Farmer, elle cristallise beaucoup d'aigreur et de la part de la presse.
Il se la paye un peu.
Voilà, c'est ça. Voilà. Elle paye aussi son comportement.
Ses relations médiatiques.
François qualifie en titre Mylène Farmer de déesse mégalo kitsch et dont le journaliste Richard Gianoro parlera d'un show spectaculaire mais routinier. La Voix du Nord regrette l'énergie du Tour 96. Ils ont préféré se laisser aller à l'adoration de ce culte mou dans une scénographie statique et souvent prétentieuse. C'est le triomphe du tape à l'œil pour le journal suisse Le Temps qui parle même d'une coquille vide. Alexandre Dimain pour le journal du Dimanche parle de mythologie de carton-pâte et termine son article en parlant d'un public séduit mais perplexe comme au début d'un amour naissant, un parfum de rêve inachevé au bord des lèvres. Journaliste qui avait été envoyé à Marseille pour la première. Et vous allez voir que les choses ont toujours été la même avec les fans lors des premières. Il y a toujours un peu de frustration, vous savez, dès qu'on découvre le spectacle. C'est le cas dans les colonnes de l'Humanité pour un spectateur, Anthony, qui n'a pas compris que le spectacle était fini après Inamoramento, sans un au revoir. Ouais. Je ne pensais pas que ça allait finir aussi brutalement. C'est à se demander si c'est une fin voulue ou un incident.
Bon, sans doute quand même quand le rideau tombe.
Oui, c'est étonnant parce que ça fait vraiment final.
Non, mais il faut dire qu'effectivement, lors de la première à Marseille, Mylène n'a pas salué. Oui. Au moment de quitter le public sur Souviens-toi du jour, avant de lancer le rappel, il n'y a pas eu de merci ni de au revoir.
Ah, et ça revient dans les articles. La presse étant allée voir surtout la première.
Bien sûr.
Alors qu'en fait, on sait très bien qu'elle le fera.
Et voilà. Comme et souvent, puis le stress lors des premières, de la première.
Exactement.
Allez, je vous rassure, il y a quand même des journalistes qui ont aimé cette tournée, mais qui ne l'ont pas toujours exprimé de façon très fine. Hein. Ainsi, pour Bertrand Dical au Figaro, la machine Farmer séduit. Chorégraphie sommaire à grand effet dans les titres rapides, acclamation dans les instants de gravité et les plus belles jambes de la chanson française.
Elle s'exprime très rarement sur ses critiques et c'est la seule fois où elle a émis un gros bémol.
Être qualifié de plus belle jambe de la chanson française, ça l'a laissé un peu de marbre et c'était quand même c'est plutôt très mal poli. Ouais.
Comme pour le Tour 89, la presse de province est plus clémente également que la presse parisienne. Le journal Le Progrès titre Génération Enchantée et souligne que le concert forcément spectaculaire n'éclipse pas les moments d'intimité. Une technique somptueuse et sophistiquée pour la République du Centre. Et puisqu'on est en province, je vous propose de repartir dans le Nord avec la Voix du Nord qui fait état dans ses colonnes d'un incident survenu, un mouvement de foule à l'ouverture des grilles du Gaillan Expo à Douai.
Que s'est-il passé ?
La Voix du Nord qui recueille le témoignage de personnes présentes ce jour-là, comme Patricia Maurice, venue avec ses 5 enfants, âgés de 9 à 15 ans.
Oh, elle a enchaîné, hein ?
Qui est arrivée à 14h et qui décrit une attente bon enfant. Hélas, à 18h30, l'atmosphère devient très pesante.
Qu'est-ce qui se passe ?
Quand les vigiles ont ouvert les portes à 19h, ce fut l'horreur. Je n'ai pas eu le temps d'hurler. J'ai vu ma plus jeune fille, le visage livide, disparaître en hurlant de peur. Je ne sentais plus que sa main. Elle était aspirée par la foule. Patricia arrive à s'extirper de la foule et demande aux vigiles de sortir sur les côtés. Et j'ai insulté cette masse de beaufs qui déboulait tels des troupeaux en furie. Patricia n'en restera pas là. Elle écrit pour se plaindre à la direction du Gaillan Expo. Mais rassurez-vous, dans son courrier, elle soulignera qu'elle avait trouvé le spectacle superbe. Et c'est ce qui compte.
Ma fille est morte, mais le spectacle était sympa. Maintenant, c'est l'heure de...
Oui.
Chut. C'est l'instant Clément.
Alors Clément, on ne boude pas notre plaisir.
Les coulisses et anecdotes Clément.
Pour commencer, je voudrais vous rappeler que le souhait de Mylène et de la production, c'était à la base de créer le spectacle à Toulon, comme pour la précédente tournée en 96. Il y a eu des difficultés à boucler les contrats dans les temps et finalement, ça s'est déplacé au Dôme de Marseille. C'est là que la préparation du spectacle s'est faite. Allez, je vous emmène à Marseille.
Plus belle Mylène.
Oh bonne mère. Ah, voilà.
13 épisodes et on a encore des surprises hein.
Et donc la première représentation, elle a lieu à Marseille le 21 septembre 99. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été chaotique, parsemé de plein de petits couacs. D'abord, dès le début du spectacle, c'est sur Beyond My Control, Mylène se trompe et elle commence à chanter 4 mesures trop tôt. Alors, en gros, elle chante sur l'introduction, si vous voulez. Le problème, c'est que la chanson, bah, elle est sur programmation. Donc, les musiciens ne peuvent pas l'aider à rattraper son avance. Donc là, elle est en fait sur l'intro.
D'accord, les tout.
Donc pour la guider, Yvan Cassar joue au clavier la mélodie pour aider Mylène à rattraper son avance. Donc ce qui fait que ça la force à chanter deux fois le même couplet pour combler un petit peu les trous. Et pas de chance, la même chose se reproduit un peu plus loin dans le spectacle sur Je te rends ton amour. Exactement pareil, elle va commencer à chanter sur l'introduction et à nouveau Yvan Cassar la guide en appuyant la mélodie au piano. Et cette fois, même Abraham Laboriel Jr. marque la mesure à la batterie pour l'aider à la remettre dans les temps. Il fait ce qu'on appelle un break de batterie. Et on sait que dans ce langage-là, ça veut dire « c'est à toi bientôt ». En gros, voilà. Donc là, on est toujours à Marseille et sur Désenchanté, les danseurs, vous vous souvenez peut-être, on n'en a pas parlé, mais les danseurs, ils avaient des plaques au sol pour pouvoir voilà, pour se fixer au sol et faire des mouvements très très amples. Ils défiaient la gravité, si on peut dire. Le soir de la première, le danseur et chorégraphe Christophe Danchaud, il perd l'équilibre et il tombe.
Il s'est vautré.
Oh,
bichette.
Et j'ai pas fini. On est toujours à Marseille. L'introduction au piano de Dessine-moi un mouton. Elle est quelque peu loupée, je sais pas comment dire autrement, écoutez.
Il s'est juste trompé d'accord et il s'est rendu compte tout de suite et donc il a essayé de se rattraper très vite.
Juste une question, le sifflet.
C'est une programmation.
Elle le fait pas.
Ah, oui.
Et sur la reprise de la chanson, pendant qu'elle présente les musiciens au public, Mylène, elle se déplace sur la scène, elle se dirige vers Abraham Laboriel Jr. Seulement, il y a des fils par terre et elle se prend les pieds dans les fils et elle chute, voilà, elle marque un petit cri de surprise, écoutez. On va maintenant aller au concert de Lausanne le 11 février.
Voyage,
c'est parti, on est en Suisse cette fois. Et ce soir-là, le créateur de la statue du décor, on en a parlé tout à l'heure, Hans Giger, il est dans la salle. C'est la première fois qu'il assiste au spectacle. Alors seulement manque de bol, c'est pile ce soir-là que la statue a choisi d'avoir un énorme bug puisque la tête ne s'ouvre pas.
Mince.
Ils ont fait comment ?
Mylène est restée immobile derrière la statue le temps qu'elle s'ouvre, donc avec un petit peu de retard. Et c'est le début d'une série de petits bugs puisque le lendemain à Lyon, dès le début du spectacle sur Millennium, la programmation sur laquelle est enregistrée les Inamoramento et les chœurs africains, eh ben, il s'interrompt en plein morceau et donc les choristes finissent le morceau seul sans bande. Une panne plus importante est toujours à Lyon, c'est sur la représentation qui suit. Sur l'outro instrumental de Pas le temps de vivre, c'est carrément tout le son façade, c'est-à-dire le son produit par les musiciens sur scène, qui est coupé subitement, et on n'entend plus que la batterie qui résonne toute seule dans la salle.
On entend toujours Abraham.
Même il a pas de micro.
Non, c'est-à-dire que la diffusion des enceintes s'est coupée.
On pense que le mec qui enregistre, il est quand même assez proche de la scène.
Il y a quand même un témoignage de Laurent Buisson, celui qui fait le son sale, qui dit que de la régie, il voyait Abraham s'époumoner pour essayer de faire entendre sa batterie et qu'il donnait tout malgré la panne.
Vient ensuite le concert de Metz, le 15 février, et c'est celui où j'étais.
Ah.
Il y a un petit changement imprévu qui intervient dans l'équipe parce que le danseur Corey Smith, il doit rentrer en urgence aux États-Unis et donc il est remplacé pour quelques dates par Bruno Batelot. Bruno Batelot, il était danseur sur le Tour 89, et il travaillait à la production du Millennium Tour, donc voilà, il a pu intégrer l'équipe. Ne pouvant pas maîtriser toutes les chorégraphies du spectacle, il est donc présent que sur les premiers tableaux pour les quelques représentations qu'il a assurées. Et on arrive maintenant en Russie, où Mylène va faire une vraie tournée promotionnelle.
J'ai pris mon passeport, là. Il fait plus froid qu'à Marseille. Hein.
Mylène, elle fait une vraie tournée promotionnelle, elle donne des interviews à la télé, à la radio et pour quelques magazines. Elle est accueillie vraiment comme une star, elle est filmée à l'aéroport, on vient lui offrir des bouquets de fleurs à sa descente de l'avion, et c'est aussi visiblement l'occasion de private joke entre l'équipe, puisque sur scène, Yvan Cassar, qui est de retour dans la troupe, il se fait appeler par Mylène Ivanov, écoutez ça.
Et Ivanov au clavier et à la direction musicale.
Elle adore sa blague.
On l'a pas dit tout à l'heure, mais les concerts en Russie, ils se tiennent dans des conditions militaires avec des gardes
postés
le long des rangées qui veillent à ce que personne ne se lève.
Plus comme ça maintenant.
Oui. Lors du deuxième concert donné à Moscou le 5 mars, va se produire un incident sur Je te rends ton amour. Je vous rappelle la mise en scène, hein, sur cette chanson, Mylène s'élève sur une plateforme. Bah seulement voilà, ce soir-là, la plateforme ne redescend pas. Tu fais vachement bien la plateforme.
Je sais, merci.
Mylène, elle ne se démonte pas, elle lance une reprise avec le public. Si je te rends Les musiciens l'accompagnent au fur et à mesure, le moment s'étire un peu en longueur et la plateforme ne redescend toujours pas. Et Mylène, bah, elle improvise, elle s'assoit au bord de la plateforme.
Génial.
Et on voit un régisseur qui surgit de l'arrière-scène. Il lui tend les bras et Mylène, de toute sa hauteur, elle se propulse en avant. Rassurez-vous, elle n'est pas tombée, elle est recueillie sans dommage.
Très belle reprise.
Très belle reprise. Et puis vous savez, à chaque fois que je fais mon petit instant Clément, je glisse toujours un moment d'émotion. Là, c'est sur la dernière date à Saint-Pétersbourg où toute l'équipe est sous le coup de l'émotion. D'ailleurs, on peut voir les danseurs pleurer sur Souviens-toi du jour. Et sur Dernier sourire, c'est Mylène qui est complètement prise par l'émotion, à tel point que sa voix s'étrangle et elle finit le titre en parlant.
C'est beau,
c'est pas étonné, très beau.
Dernière date
c'était
de
la dernière date de la tournée. Bah voilà, écoutez, j'ai encore plein de petites anecdotes. À chaque fois, on me dit, mais t'as pas parlé de ça. Alors là, j'ai pas parlé de quoi? J'ai pas parlé du rideau qui tombe pas. J'ai pas parlé de Mylène qui est obligée de quitter la main de la statue avec un escabeau parce que le rideau est pas tombé.
Oui,
j'ai pas parlé de.
T'es en train d'en parler.
Oui.
Merci Clément.
Merci Clément.
Merci Clément. On va passer à la troisième partie de l'épisode avec l'exploitation. L'exploitation, c'est évidemment le CD, le DVD, le vinyle. Alors Thibaut, il s'est passé quoi pour le Millennium Tour?
En l'an 2000, la Farmer Mania est à son apogée.
Ah ouais.
Et la maison de disques de Mylène Farmer compte bien faire de la sortie du live du Millennium Tour un événement. Et comme ça pouvait se faire pas mal au début des années 2000, avec la sortie d'un nouvel Harry Potter ou d'une nouvelle PlayStation, le 5 décembre 2000, une mise en vente exceptionnelle est organisée au Virgin Megastore des Champs-Élysées pour que les fans de la chanteuse puissent se procurer les supports du live dès minuit. Oui. Le 6 minutes d'M6 s'est même fait écho de cette sortie.
Et quand un DVD sort, ça peut parfois provoquer une émeute. Cette nuit, le Millennium Tour, la tournée 99 de Mylène Farmer, était mise en vente dans un grand magasin parisien. Une opération marketing bien rodée qui a fait des heureux chez les inconditionnels de la star.
C'est le plus beau concert qui m'a été donné de voir dans ma vie.
On attendait, c'est notre cadeau quoi, c'est génial. Demain j'ai cours, je serai fatiguée, si mes profs me voient, je vais me faire assassiner, mais c'est pas grave.
Mylène, c'est pire que drogue, ça coûte encore plus cher.
On l'adore.
Vous n'avez pas les images, mais il y avait une immense bâche en fait de la pochette. Les fans, à minuit, se ruent dessus et les déchirent pour arriver au présentoir.
Fou. On vous mettra les images sur les réseaux.
L'album live du Millennium Tour, enregistré à Bercy en septembre 1999, se classe dès sa sortie à la première place du top album.
Et pour un live, hein.
Détrônant les comédies musicales Roméo et Juliette et les 10 commandements.
Ah oui,
du lourd en plus
à l'époque.
Il
reste classé 2 mois parmi les 10 meilleures ventes et s'écoule à plus de 650 000 exemplaires.
C'est beaucoup, hein.
Un live qui était très attendu, qui est sorti 1 an et demi après sa captation. Et puis on en a un peu parlé. Assez déceptif.
Ouais.
Bah voilà, moi c'est la première fois que j'avais un point de comparaison puisque voilà, j'avais assisté à une représentation, je n'ai pas retrouvé mon concert. C'est un sentiment, je pense que beaucoup quel que soit le concert d'ailleurs, hein, on parle pas que du Millennium Tour.
Oui, parce que c'est toujours difficile de capter un concert quoi qu'il arrive.
Un disque qui est assez, alors je vais pas dire aseptisé, je sais pas si c'est le mot, mais très lisse. On sent pas le live.
Oui.
On a l'impression d'avoir un album studio live, un peu comme le gel L'Oréal.
C'est-à-dire que par exemple, la basse ne remplit plus ses qualités de basse, d'avoir des basses tout simplement. Déjà en plus, Abraham, il jouait sur une batterie qui était assez tronquée. Normalement, les batteurs ont beaucoup plus de choses. Donc déjà là, il va manquer d'amplitude. Mais ça se ressent pas ça quand on est en concert parce qu'il y a la résonance des salles, etc., etc. Après, dans une captation, ça se ressent plus encore parce que sur le CD, ils ont retiré énormément de programmation qui était diffusée pour pallier le manque de percussion et le manque de rythmique électronique. Et on les retrouve pas vraiment. Et du coup, ça enlève quand même beaucoup de la dynamique et de l'énergie musicale du concert.
Et puis, il y a le film aussi pour la première première fois, ce n'est pas Laurent Boutonnat qui signe la réalisation du film, mais François Hans, qui était déjà au générique de Live à Bercy 3 ans auparavant. Un énorme succès, encore une fois.
Ah, bien sûr.
Enfin, je le dis à chaque fois, mais il faut quand même souligner que à chaque fois, ce sont des énormes succès. Hein. La vidéo s'est écoulée à plus de 430 000 exemplaires.
C'est beaucoup. Il y a de très très belles images du film. Hans sait très bien faire ça, je trouve. Et moi, je suis pas déçu du film.
Moi, j'aime bien le montage et la réalisation, mais je trouve que la captation n'a pas rendu hommage aux lumières, par exemple.
Il y a un parti pris artistique d'en faire une icône, hein, avec énormément de plans de fans extatiques. Je pense à Millennium. Hein. C'est vraiment ça.
C'est le début de tout ça, bien sûr.
Parce qu'en fait, on passe à une hystérisation du public beaucoup plus forte. Les caméras filment ce qu'elles voient. Donc, en 96, effectivement, il y avait une folie, mais il n'y avait pas ce côté, effectivement, beaucoup plus fort.
Après, on choisit de monter ou pas.
L'adoration en 89 du Mylène Farmer était aussi forte et c'est la manière de montrer les choses qui est différente.
Ça va aussi avec l'époque médiatique, avec tout ça.
Et on stipule que c'est la première fois qu'on avait des bonus d'un concert de Mylène Farmer où on la voyait en coulisses, etc. Avec même quelques titres en multi-angle pour pouvoir voir les lumières, comment c'était, etc. Super intéressant.
En guise de single live, elle a pris un des tubes oubliés peut-être lors de l'exploitation de l'album, mais du coup qui a eu son heure de gloire avec le live, c'est Dessine-moi un mouton. Classé 6e du top single et plus de 90 000 singles vendus, hein, ce qui est vraiment bien pour un single live.
Oui, et puis surtout, on l'entendait énormément à la radio, c'est devenu
clip,
un vrai tube.
Le clip passait tout le temps. Mais c'est devenu vraiment une chanson, même pour les gens qui
populaire,
n'aiment pas forcément
Mylène
Farmer, ils connaissent cette chanson.
Bah, elle a sa petite accroche.
Et c'était un bon choix de single live.
Exactement.
C'était un bon moment de scène.
La balançoire, tout ça, c'était bon enfant.
Visuellement,
c'était très
beau, ça marchait très bien. Et pour la première fois, du coup, Mylène Farmer illustrait. Glacier des singles, c'était une photo du live, mais les maxi.
C'était des dessins.
C'était des dessins de Mylène avec son mouton qu'on retrouvera un an et demi après sur le clip de C'est une belle journée, épisode je ne sais plus combien sur les mots.
L'épisode 8, les mots. Et on va passer à la dernière partie de l'épisode. On va pas se dire bonsoir tout de suite, on va finir par un dernier tour de table. Je commence par qui ? Qui veut commencer ?
Moi, je veux bien commencer. Tiens.
Allez, Ludo, c'est à toi.
Aucune chanteuse française, à ma connaissance, n'avait réussi auparavant à créer une entrée aussi mystique et un spectacle si impressionnant en tournée. Je trouve que c'est très, très gigantesque. Sûr. Et à ce moment-là, bah, comme on l'a souligné, hein, elle devient le phénomène Farmer. Et ça lui a donné, après la sortie des supports, une certaine fascination qui a vraiment assis sa notoriété. Bon, le côté Metz, DS, et ça a pu jouer d'ailleurs en sa défaveur pour la suite où les gens vont trop en attendre d'elle. Et moi, je trouve qu'il se dégage d'elle une grâce, une beauté. J'adore ses dents.
Il y a des détails, il est fort.
Et c'est le moment pour moi où je trouve qu'il y a une unité, puis une équipe qui se connaît, et ça se ressent quand même. Ça se ressent à l'image.
L'esprit de troupe.
Et je mets un 8 sur 10. Un
joli 8 sur 10, bravo.
Fabuleux Millennium Tour.
Clément.
Bah, le Millennium Tour, c'est un spectacle qui est vraiment riche et je trouve qu'il prolonge très très bien l'album Inamoramento avec sa poésie. Il y a aussi le dosage entre voilà, chansons rares, tubes, qui lui donne vraiment une dimension très particulière, ce qui fait qu'il a cette place à part. Une autre place à part, c'est aussi le fait que pour moi, je vous l'ai dit, c'était ma première fois, donc évidemment, il y a beaucoup d'affects qui rentrent en jeu. On a parlé de la direction musicale, qui pour moi est un point faible, des supports qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, mais il faut reconnaître que c'était pas facile non plus de passer après le Tour 96, franchement, qui, moi, dans mon cœur, il est évidemment au-dessus, donc je pense que ça joue.
Tu vas mettre quelle note, du coup ?
Un très très beau 9.
Waouh !
Superbe !
J'étais pas prêt non plus, ouais. Bastien.
Je vais revenir sur ce que vous avez dit, c'est vraiment, elle enfonce le clou, et là c'est bon, elle est respectée par tout le monde avec ce concert. Il va bien à l'album Inamoramento, en fait, il suit bien derrière, elle a vraiment épousé cette ère, et elle la prolonge avec le live, c'est à l'image de l'album, c'est très poétique. Je redis quand même que je trouve que c'est quelque chose qui a mal vieilli, malheureusement, moi, dans, voilà, c'est petit bémol que je mettrais sur ce spectacle. Et après avoir vu des super CD live de 89 et 96, moi qui n'ai pas vu le spectacle, et ben musicalement, c'est vrai que j'ai du mal à appréhender ce spectacle. Mais en tout cas, ça reste un très très bon spectacle qui, si on replace dans l'époque, enfin à mon avis, est incroyable.
Bah, bien sûr.
Comme tu l'as dit, personne n'avait fait ça avant en tournée. Donc pour moi, ça sera un 7 sur 10.
Pas mal. Avant de laisser la parole à Thibaut, je vais donner moi ma note et mon avis sur ce live.
Alors,
j'ai évidemment adoré parce que, comme disait Clément, moi c'était ma deuxième fois. J'avais 20 ans. Pour moi, c'est une déesse mégalo kitsch. Je me souviens d'un titre de presse.
Titre, ça, oui,
on était un peu à une messe, quelque chose comme ça.
Oui, t'es rentré dans la
secte.
Dans la
je vais être totalement honnête, je voulais mettre 9, mais ce ne sera pas le cas parce que les supports CD, pour moi, c'est pas possible. Il ne rend tellement pas justice à ce concert. Donc, je vais mettre un 7 sur 10.
Ah, tu retires 2 points.
Je retire 2 points. Tu sais pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Parce que...
J'adore. Me protéger, hein, s'il me saute dessus.
Parce que le problème de ce genre de live, c'est que tout à coup, ton souvenir, tu le perds. C'est pas grave. 7 sur 10, c'est quand même une très bonne note pour un concert. Et je passe la parole à Thibaut.
J'avais 9 ans quand je l'ai vu sur scène. Ça marque. Moi, c'est un souvenir qui est impérissable. Alors, c'est un terme qui est toujours un peu une rencontre, même si, bon, voilà, on s'est jamais rencontré. Hein. Voilà. Moi, le Millennium Tour, je l'associe vraiment aux deux autres spectacles, 89-96. Pour moi, il y a vraiment un triptyque de ces 10 années qui installe en fait un style de Farmer sur scène les autres spectacles seront des déclinaisons. Je le trouve, voilà, dans sa construction, dans certains choix qui sont faits et puis aussi dans son exploitation live, et ben juste en dessous des deux autres. Donc, j'avais mis 9 au Tour 96, j'avais mis 8 au Tour 89, donc je vais mettre 7 au Millennium Tour.
Bien.
Ça fait 20 ans, c'est passé à une vitesse incroyable. Donc voilà, il y a d'un côté un spectacle avec un live qui est ce qu'il est, et puis de l'autre côté un souvenir qui est impérissable.
Merci Thibaut. C'était Histoire de Millennium Tour, épisode 13, La Communion, une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibaut et moi-même, et réalisée par
Ludovic.
Vous pouvez retrouver toutes les infos, les références et les autres épisodes sur notre site histoire2mf.com. Histoire
avec un S.
Salut à tous.
À bientôt.
Histoire de, histoire de, histoire de.